J'ai un système dans lequel nous allons mettre tout plein de disques en parallèle. Quand je dis tout plein, c'est par exemple, moi dans mes systèmes, j'ai mis 72 disques en parallèle. 72 disques en parallèle, avec un système permettant de stocker chaque piste, donc un buffer de pistes par disque, au moins une piste, sinon plusieurs pistes. Donc l'idée, c'est de travailler non pas avec des tout petits blocs de rien du tout, des tout petits blocs rikiki, mais des macro-blocs qui vont être de 72 fois un système de une piste. Intérêt. Donc ici, vous allez permettre de réaliser un système dans lequel, à ce niveau-là, vous allez avoir, donc en sortie, la synchronisation est très très simple. Ici, au niveau de chaque tour, de chaque piste, quel que soit le point de démarrage, si vous voulez, quelle que soit la phase de chaque disque, au bout d'un tour, de toute façon, tout le monde a récupéré l'ensemble. Et ensuite, il n'y a plus qu'à synchroniser au niveau électronique pour récupérer les bonnes données. Donc, ceci permet d'avoir, à ce niveau-là, si vous voulez, un débit de 72 fois l'ensemble des disques. Pourquoi 72 fois? Parce qu'à ce niveau-là, l'idée, c'est de dire le MTBF de ces disques. Et quand vous en avez 72 en parallèle, il y a des chances pour que vous en ayez un qui tombe en rade. Donc, le seul moyen, c'est d'arriver à faire un système d'ECC permettant de corriger tout ça. Donc, vous mettez ici un ECC. ECC, ECG, je ne veux pas savoir. Donc, code général. Un ECC, ECG qui va vous permettre de sortir en débit. À ce niveau-là, quelque chose qui va avoir 64 fois le débit des disques, qui va être capable de récupérer deux erreurs, deux disques en erreur, vous êtes capable, non, détecter deux disques en erreur, corriger un disque en erreur, c'est quand même extrêmement bien. Et puis, en plus de ça, ici, un bidule annexe, tout à fait intéressant, c'est que quand vous avez un disque qui tombe en rade, ici, possibilité de reconfigurer à la volée, un disque supplémentaire qui va commuter et qui va se mettre à la place des autres. Online, donc sans aucun problème. Donc, ces brevets, j'en suis très fier. EMC a été attaqué par Thinking Machines, qui lui disait que c'était ses brevets à lui. Et EMC m'a appelé en prouvant que c'était moi qui avais les brevets par rapport à Thinking Machines. Donc Thinking Machines m'a volé mes brevets et Bull n'a pas été fichu capable de répondre quand je leur ai signalé qu'il y avait quand même 7 milliards de chiffres d'affaires à la clé. Bon. 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires à la clé. Bon. C'est comme ça. Donc j'ai quand même réussi à aider un tout petit peu EMC là-dessus. Tant mieux. Mais il paraît qu'il y avait des problèmes politiques importants avec EMC, qu'il ne fallait pas les embêter. Bon, donc pour moi, la mémoire était à trois niveaux, M1, M2, M3. Donc, M1, c'est la mémoire principale, M2, c'est la mémoire de cache de disque, et M3, c'est le disque lui-même. Donc, avec des débits qui sont équivalents entre M1 et M2, et qui sont un petit peu moindres entre M2 et M3. Mais ici, on avait, pour les machines de l'époque, c'était gigantesque, plusieurs gigaoctets par seconde de débit mémoire. Donc, c'est considérable. Allez, cocotte. Oui, bon. Donc, comment réaliser des mémoires extrêmement rapides? Eh bien, grâce à l'aide de Bull System, de SEMS, etc., nous avons réalisé donc ces mémoires M1, M2, M3. Nous avons parallélisé donc à mort les mémoires en faisant des systèmes à bancs. Donc il y avait 16 bancs mémoire qui étaient entrelacés, etc., avec crossbar et tout et tout. Merci Jean. Je sais, tu m'avais prévenu. Donc, crossbar complet entre les bancs. Donc, nous avons... Euh, Au niveau de l'architecture, donc, l'architecture était conçue de la façon suivante. Ici, mémoire secondaire, mémoire principale, contrôleur mémoire, avec son crossbar. Ici, dispositif de connexion en entrée et en sortie, avec quatre flots scalaires. Un flot scalaire étant constitué par une unité scalaire, si vous voulez. Donc, quatre unités scalaires, un séquenceur vectoriel, et ici, une unité vectorielle reconfigurable de 8 à 32 processeurs élémentaires, de façon à pouvoir paralléliser, comme je vous l'ai montré ici, de façon à pouvoir paralléliser entre les différentes unités, entre les différents processeurs, les opérations vectorielles. Donc, ce que nous avons fait pour ne pas perdre de temps, on a utilisé une machine frontale DPS-7, qui était la machine bulle, qui était à l'époque la machine de base. Et cette machine frontale DPS-7 a supporté donc les compilateurs qui ont été réalisés donc en commun avec c'était quoi, c'était Stéria, oui. Donc en dehors de ceci, nous avions ici un système de maintenance locale qui était un SPS7, donc qui travaillait sous Unix, qui nous permettait de réaliser toutes les opérations de maintenance du dispositif. Donc maintenance, c'est-à-dire opérations permettant de regarder d'abord tous les systèmes d'entrée et sortie, de contrôler la mémoire principale, de débloquer les problèmes en cas de panne d'un petit bout de mémoire, donc possibilité de mettre au rencard une partie de l'adressage en réalisant une opération de mapping de la mémoire de façon à pouvoir permettre des choses très précises de ce côté. Que dire d'autre ? Donc ici, la mémoire de disques, comme je vous le disais, soit des disques à tête parallèle, soit des disques parallèles comme ceci. Donc, connexion par hypercanal vers le reste du monde. Et en particulier, nous étions connectés au CEA par l'intermédiaire de ce truc-là. Résultat à réalisation. Donc, désamorçage complet du problème d'embargo. Au début de l'été 87, il y avait encore embargo. À la fin de l'été 87, il n'y avait plus d'embargo. C'est important. Deuxième point.